Bonjour à toutes et à tous. Le chantier thématique des Nouvelles Vagues cette semaine, c'était les élections. Teintées d'Amérique, donc aujourd'hui, comme toutes les émissions de votre chaîne, nous regardons outre-Atlantique et comme c'est vendredi, on regarde aussi l'écran. Nous n'avons élu personne. Nous avons pris la liberté lundi avec Arnaud Lepilouer et Vincent Tibéri de questionner la légitimité de l'élection présidentielle. Nous avons écouté mardi professeurs et éducateurs décrire l'enthousiasme et la curiosité de leurs élèves en matière de politique, d'élection et de débat démocratique. Nous avons appris mercredi que les campagnes efficaces du 21e siècle des États-Unis à la France mélangent les savoir-faire les plus pointus en termes de programmation informatique et de regroupement de données à des pratiques vieilles comme la cité, à savoir le porte-à-porte. Et enfin, hier, la romancière Chloé Delhomme appelait de ses voeux une république où la sororité entre femmes aurait une place telle que la lutte pour l'égalité entre les femmes et les hommes s'en trouverait enfin accélérée. Vous pouvez réécouter toutes ces émissions sur le site franceculture.fr. Bienvenue à toutes et à tous dans les Nouvelles Vagues. Au rang des nouveautés de cette rentrée, notre rubrique de 14h50 qui s'appelle désormais 5 fois. Un invité fil rouge propose tout au long de la semaine 5 récits très subjectifs en lien avec notre chantier thématique. Et cette semaine, c'est le cinéaste Yves Jelan qui a partagé sa passion pour les élections au micro de Romain de Bec-de-Lièvre.
Si 3 ans avant le scrutin, on en est déjà à se tirer dans les pattes de cette façon, ça avait l'air assez violent, mais il n'y avait aucune image. Je me dis, ça, c'est prometteur.
Et manifestement, ces élections ont tenu leurs promesses aujourd'hui. Il évoque le documentaire qu'il tourne sur les élections municipales à Paris il y a quelques années, un vrai panier de crabes vers 14h50. C'est le dernier moment de ce chantier thématique consacré aux élections et comme chaque semaine, il prend la forme d'une carte blanche cinématographique. Si les fictions françaises ont depuis plusieurs années, que ce soit au cinéma ou pour la télévision, mis la politique au cœur de leurs intrigues, on peut dire que le phénomène est plus ancien, presque un classique du côté du cinéma et des séries américaines. Cela tombe bien, toute la journée, toutes les émissions de France Culture regardent du côté des États-Unis où la campagne bat son plein et les élections ne sont plus qu'à 2 mois devant. Awad Awesan, c'est à vous que nous avons confié cette carte blanche cinéma. Vous êtes à Paris ce week-end à l'occasion du Festival Américain, qui se tient d'ailleurs à Vincennes, un tout petit peu plus loin, en tout cas un peu plus à l'écart de Paris. Et c'est à l'occasion aussi de l'apparition en France de votre roman Madison Square Park aux éditions Héloïse d'Ormesson. Bonjour et merci beaucoup d'être avec nous cet après-midi.
Bonjour.
Peut-être commencer avant d'écouter les extraits de films que vous avez choisis pour nous, de vous interroger sur la manière dont vous regardez ce moment électoral, le moment des élections, d'abord aux États-Unis, et puis si vous les regardez en France, en Inde ou ailleurs.
Oui, d'abord aux États-Unis, en fait, c'est très intéressant parce que moi j'habite aux États-Unis presque maintenant 25 ans. Et la dernière fois quand on a eu vraiment les élections, c'est-à-dire il y a 8 ans quand Barack Obama est élu, j'étais toujours, avant ça, j'ai eu un passeport indien. Et je me dis, si Obama est élu, cette fois, je deviendrai américaine. Et il était élu et je suis une citoyenne. Et donc le pouvoir des élections, de vraiment, ils ont formé un peu ma vie, les choix que j'ai faits. Je dis que oui, je suis fière de ce pays où j'habite depuis longtemps parce que ils ont élu Obama. Et là, 8 ans plus tard, on regarde la scène politique et c'est très très loin. Déjà, le monde, il a beaucoup changé, mais aussi on a un niveau de discours qui n'a rien à voir avec le discours il y a 8 ans.
Dans la campagne, vous voulez
dire?
Dans
la campagne, je veux dire. Et on regarde tous ces gens qui écoutent, qui soutient Donald Trump dans un pays qui est plus en plus multilinguistique, multiculturel, et on voit que toujours dans les campagnes, un peu comme les gens politiques jouent sur la peur, qui amène une manière efficace d'avoir des votes. Donc, beaucoup a changé, ça me rend un peu triste. Et comme beaucoup de monde, je crains un peu quand même pour ce qui passera dans 2 mois.
Et vous écoutez, vous êtes une fidèle auditrice, spectatrice des débats, vous lisez à propos de cette campagne électorale?
Alors, les dernières années, avant dans les élections, j'ai voyé, mais là, j'ai vraiment un peu de mal à supporter d'écouter les choses qu'on dit souvent sur les débats. Oui, mais je suis les infos, mais par contre, quand il y a des moments des rallyes de Trump, par exemple, quand il dit n'importe quoi, c'est vraiment difficile pour quelqu'un comme moi d'écouter, être calme, quoi.
Vous évoquez cette élection de Barack Obama qui a une importance dans votre vie de femme et de citoyenne parce que vous décidez, si j'ai bien compris, de demander la nationalité, la citoyenneté américaine. Ouais. C'est la première c'était la première fois que des élections avaient un tel impact dans votre vie personnelle.
Oui. Oui, parce que c'était très direct. C'est le passeport maintenant que je porte. C'est de dire, moi ici, au Festival America, comme un écrivain américain. Et donc, c'était très important. Et aussi, j'avais envie de voter aussi dans toutes les élections même municipal aux États-Unis, parce que si on vote pas dans une démocratie, on partage pas, quoi.
C'est encore quelque chose qui est très lié pour vous. Lundi, on questionnait l'évidence de cette relation entre la démocratie et le vote, et on faisait entendre qu'il y a des endroits où il y a des élections sans pour autant qu'il y ait une réelle démocratie, une réelle vie démocratique. Pour vous, cette possibilité de voter a encore une importance très forte?
Ouais, absolument.
Vous regardez aussi ce qui se passe en Inde, puisque vous ne l'avez pas dit, mais si vous habitez depuis plusieurs années aux États-Unis, vous avez aussi une partie de votre vie liée à l'Inde. Vous regardez les élections là-bas?
Je regarde un peu aussi, mais c'est souvent au travers des yeux de ma famille qui vit toujours là-bas, qu'est-ce qu'ils pensent. Et pendant les élections, voilà, là aussi, il y a des moments qui sont vraiment, on dit en anglais farce, je ne sais pas comment on dit en français, mais c'est vraiment, c'est les spectacles.
Ah, on dit farce aussi. C'est vraiment exactement le même mot en français.
Ouais. C'est un peu pareil partout. Hein.
Le fait que vous soyez romancière, ça vous permet de regarder ça aussi avec un œil peut-être aiguisé de la fiction? Ça vous permet de voir ces personnes-là comme des personnages?
Oui, et d'ailleurs, j'ai quelques romans qui ont comme les arrière-plans la politique, mais c'est souvent pas la politique électorale, parce que là, je pense que l'enjeu est différent, c'est vraiment comment on gagne les votes de cette communauté, c'est vraiment, c'est autre chose, c'est plutôt la grande politique qui m'intéresse un peu plus.
Et puis vous parlez, donc on l'entend, un français absolument irréprochable. Est-ce que ça fait de
vous êtes gentil.
Quelqu'un qui regarde les élections françaises, la campagne électorale française ou la vie politique française?
Oui, je regarde un peu aussi, pas énormément, mais pendant les élections, par exemple l'année prochaine, je vais voir presque tous les jours sur le site du Monde ou sur les sites internet français plutôt qu'américains pour voir comment se passe, qu'est-ce qui se passe. Et voilà.
En étant attentive, à quoi vous mesurez par exemple des grandes différences culturelles, des grandes différences médiatiques dans le traitement de ce moment électoral entre les deux pays?
Ah, ça c'est difficile à dire parce que je consomme pas beaucoup de médias français en ce moment, parce qu'aux États-Unis on en a pas assez. C'est souvent sur les articles, la presse qui est un peu différent. Mais quand même, je pense qu'aux États-Unis, c'est un grand pays, mais on peut voir, par exemple, que les candidats disent quelque chose dans un état et autre chose dans l'autre, et le lendemain, c'est différent. C'est aussi lié avec leur personnage et leur personnalité. Mais après, il y a vraiment les propos qui sont plus intéressants pour un état que l'autre. Et je pense que France, parce que c'est quand même plus petit, peut-être il y a moins de division, peut-être il y a Paris et les autres endroits et les Provences, ou peut-être il y a les grandes villes et les Provences. Mais aux États-Unis, il y a vraiment beaucoup de diversité selon
dans
l'État.
Dans le discours.
Ouais.
Eh ben, on sera attentif. Je disais en introduction que ce motif de l'élection, de la course au pouvoir, de la politique de manière générale, était très présent dans le cinéma américain, évidemment dans les séries américaines, on y reviendra. Ça a été simple pour vous de trouver, comme ça en pleine route, parce que forcément on vous a appelé il y a quelques jours, des extraits de films pour traiter des élections au cinéma.
Écoutez, j'avais vu tout ce que j'ai proposé. Par contre, il y a quelques-uns qui sont assez anciens que je me rappelle pas tous les détails, mais ils ont quand même laissé un marque parce qu'il y avait peut-être une certaine vérité dans les films où ils étaient liés avec même les vies actuelles des personnes et des personnages qui sont vrais, quoi. Mais moi j'aime beaucoup regarder tout ce qui est créé autour de la politique parce que c'est quand même un espace très fécond pour la création.
Et du point de vue de la fiction, vous le trouvez aussi dans ce que vous lisez? Vous avez autant d'appétit de lire des fictions, des romans ou n'importe quel livre d'ailleurs où la politique a cette place-là?
Oui. Ouais. This came in the mail today. You get the first bullet the minute you stand at the microphone. Well, publicity is working. You don't have to go up there. The whole nation is watching what happened to you.
My name is Harvey Milk, and I'm here to recruit you. I want to recruit you for the fight to preserve your democracy.
Mes frères et mes sœurs, faites votre coming out auprès de vos parents, auprès de vos amis, si vous les jugez dignes de confiance, auprès de vos voisins, auprès de vos collègues de travail. Faisons-le une fois pour toutes et démolissons tous les mythes et détruisons la calomnie et le mensonge. Pour votre bien, pour leur bien, pour le bien de tous les adolescents qui sont traumatisés par les votes de Dade jusqu'à Eugene. Sur la statue de la liberté, il est écrit: donnez-moi vos cohortes, vos pauvres, vos masses laborieuses qui ont soif de liberté. Sur la déclaration d'indépendance, il est écrit: tous les hommes ont été créés égaux. Tous les hommes ont été doués de certains droits inaliénables. Alors, pour Monsieur Briggs et Madame Bryan et tous les bigots de ce pays, même si vous essayez de toutes vos forces, vous ne pourrez jamais effacer ces mots de notre déclaration d'indépendance. Même si vous essayez de toutes vos forces, vous ne pourrez jamais rayer ces mots de la base de la statue de la liberté. Voilà ce qui fait la force de l'Amérique. Aimez-la ou quittez-la.
Abed Awessar, le premier film que vous choisissez de nous faire entendre sur ce thème des élections, c'est Harvey Milk, un film de Gus Van Sant qui sort en 2008, en France en tout cas. Ici, c'est un discours fameux de Harvey Milk au milieu de la Gay Pride et il vient d'apprendre qu'il est menacé de mort. Et cependant, il monte quand même pour s'exprimer et il enjoint ses frères et ses sœurs, dans une conception fraternelle de la société, à faire leur coming out, puisque évidemment l'un des points très importants de la manière dont Harvey Milk milite, c'est pour l'égalité entre les personnes qui ont des sexualités différentes. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce film-là?
Pour plusieurs raisons, parce que je pense qu'en ce moment-là, avec le discours qui est autour de la partie républicaine, les droits des femmes, les droits de minorités, et les droits des hommes, les droits des minorités sexuelles et de minorités des plusieurs communautés sont en question. Et on est quand même en 2016. On a déjà eu il y a quelque temps maintenant le droit de, par exemple, le droit de mariage pour les gays. Et Et tout ça sera, va aller en arrière si, peut être aller en arrière si Trump est élu. Et il questionne dans les endroits, selon les endroits où il est, tous ces droits qu'on a eus. Et ça me paraît très dangereux. Ça m'a fait peur aussi, parce que ça veut dire que on peut faire le progrès pour on peut nier ce qui s'est passé dans la législature et ailleurs.
C'est la fragilité justement de la manière dont ces combats font entrer dans la société des acquis qui peuvent être remis en question. Ici, c'est Sean Penn qui joue Harvey Milk, figure donc qui est assassiné en 1978 par Dan White pour ces idées-là, justement. Mm-hmm. C'est une figure que vous connaissiez avant de découvrir le film de Gus Van Sant?
Non, pas avant le film, pas beaucoup du tout. J'avais entendu parler, mais je connaissais pas sa vie. Je pense que la marine aux États-Unis va dédier est nommé un grand bateau Milk après lui.
Ah, aujourd'hui en ce moment.
Je pense, cette semaine-là ou juste récemment, quoi.
Ce qu'on entend aussi dans la voix de Sean Penn qui interprète Harvey Milk, c'est le courage, la façon de porter au devant de la scène des idées qui ne sont pas forcément faciles à porter à ce moment-là, y compris à San Francisco. C'est quelque chose que vous guettez chez les hommes et les femmes politiques qui prennent la parole, ce soit aux États-Unis ou ailleurs.
Il prend la risque, un risque personnel qui l'a coûté tout, quoi. C'est la grande qualité de leadership, je sais même pas le mot en français pour ça, mais dans une façon qui est très profonde. On manque totalement dans la
d'être
politique
d'être si convaincu, de travailler avec ses propres convictions et donc de pouvoir être le leader.
Oui, voilà. De pas être quelqu'un qui est nommé comme ça, mais qui a vraiment qui émerge parce qu'il a les qualités. Voilà.
Évidemment, on se situe sur un tout autre plan, mais du courage et la volonté de se libérer de certains carcans sociétaux, c'est aussi ce que vous demandez à vos personnages dans votre dernier roman, qui doivent aller contre, dans Madison Square Park, doivent aller contre leur détermination sociale, un petit peu contre leur histoire aussi, qui doivent sortir de ce carcan. C'est quelque chose qui était central dans l'écriture de ce roman.
Dans ce roman et aussi d'ailleurs dans quelques autres que j'ai écrits comme Baby G, je pense que on a parfois les choses qui nous embêtent ou qui nous font peur, et pour évoluer il faut franchir, il faut aller là où on est plus à l'aise, quoi.
Y compris quand on doit en passer par de la rupture, quand on doit passer par des scissions, quand on doit passer par exemple, quitter certains membres de sa famille ou rompre avec une forme de tradition.
Oui, parce que je pense que rien vient facilement.
France Culture.
Les Nouvelles Vagues.
Par Marie Richeux.
Primary. Two Democrats are left standing. Senator Pullman of Arkansas trailing Governor Morris of Pennsylvania. Governor Morris has mounted a sizable lead with 2,047 delegates, winning New Hampshire, California, New York, and Michigan. But Senator Pullman, with 1,302 delegates, is still in the hunt, having won Florida and Tennessee and Virginia and Missouri. A win in Ohio could turn it all around for the Arkansas senator. 1 week from Tuesday, the all-important 161 Ohio delegates could be the deciding factor. Once again, it is true, as goes Ohio, so goes the nation.
Vous vous considérez chrétien?
En quoi c'est important?
Laissez-moi réfléchir. Je n'ai aucune idée de ce qui se passe après la mort. Peut-être rien. On retourne peut-être de là d'où l'on vient. C'est vous qui avez écrit ça, gouverneur?
Je vais être très clair.
Je vous en prie.
Je suis baptisé catholique, mais je ne suis pas pratiquant. Et je n'ai aucune idée de ce qu'il y a après la mort. Si le sénateur le sait, il devrait être président. Je voterai pour lui.
Pouvez-vous être un peu plus précis?
Je vais essayer. Merci. Je ne suis pas chrétien ou athée. Je ne suis pas juif ni musulman. Ce en quoi je crois, ma religion, est écrit sur un bout de papier et s'appelle la Constitution. Ça veut dire que je me battrai jusqu'à mon dernier souffle pour que chaque citoyen puisse croire en son Dieu du moment que ça ne gêne pas autrui. Je pense que notre pays devrait être jugé à sa capacité de veiller sur son peuple et sur ceux qui n'arrivent pas à le faire. C'est ça, ma religion. Et si vous ne me trouvez pas assez religieux, ne votez pas pour moi. Si vous ne me trouvez pas assez expérimenté ou trop petit, ne votez pas pour moi parce que je ne changerai pas cela pour être élu.
Je voudrais juste que vous disiez clairement si vous croyez aux enseignements de la Bible.
Sommes-nous aux primaires ou à la présidentielle?
Gouverneur, celui qui gagnera ces primaires sera candidat à la présidence. Et si vous pensez que ce genre de questions ne sont pas essentielles à ce genre d'élection, vous êtes à Disneyland. Je vous le répète pour que ce soit clair. Oui, nous briguons la présidence des États-Unis, pas celle des délégués de classe.
Abba Dawessa, c'est un deuxième extrait que vous avez choisi pour cette carte blanche cinématographique consacrée au thème des élections au cinéma et dans les séries. Ici, c'est un film qui s'appelle Les Marches du Pouvoir, qui date de 2011, une réalisation de George Clooney. Il y incarne un homme politique, c'est vraiment une plongée dans la machine électorale américaine. Et ici, il est interrogé sur la religion, sur ses croyances, et il répond par sa croyance dans la Constitution. Alors peut-être dans un premier temps, pourquoi vous avez choisi cet extrait-là? Ce film-là.
Parce qu'en fait, dans toutes les élections que j'ai vues aux États-Unis, il y a toujours la question de la religion. Et après, aussi par rapport au système et la machine électorale, c'est très différent que par exemple en Inde, on a le collège électoral aux États-Unis et on a des États qui ont les élus qui vont voter pour le président. Et on peut avoir les situations comme Al Gore et George Bush, où Al Gore a eu le vote populaire, mais il a perdu les élections. Et donc, qui m'a rendu toujours un peu confuse aux États-Unis, même si je comprends à peu près comment ça passe. Et donc, ça donne énormément de pouvoir à certains États, comme Ohio, dans ce cas-là, où le candidat qui sera élu, il faut absolument qu'il le gagne ou elle le gagne. Sauf si elle a plusieurs autres États, etc. Donc c'est vraiment une espèce de jongler. L'élection n'est pas du tout quelque chose de simple. Et même les gens qui le suivent ne comprennent pas tout de suite toutes les conséquences de chaque parti qui va constituer la grande vote pour le candidat. Donc c'est pour plusieurs raisons que j'ai choisi cet extrait. Et aujourd'hui, par exemple, le candidat vice-président pour Donald Trump, Michael Pence, il est d'abord chrétien avant d'être, je pense même américain, ou pour lui c'est la même chose. Donc la laïcité est quelque chose qui vient après la religion. Donc la religion est toujours dans plusieurs discours. Et ça m'étonne aussi parce que c'est quand même un pays très multiculturel qui a beaucoup de diversité. Mais la racine est quand même chrétienne et ça continue. Je trouvais toujours un peu contradictoire. Mais en même temps, tous les pays ont leurs contradictions. L'Inde aussi, il est contradictoire comme pays, donc voilà.
Donc c'est tout à fait normal pour vous d'entendre une interview où on interroge un futur, ou en tout cas un candidat, où on lui demande à la fois sa religion, ses croyances, est-ce qu'il croit aux enseignements de la Bible. Aujourd'hui, je crois que ce serait encore complètement impossible en France.
Oui, je sais, et c'est ça qui m'attire toujours attiré vraiment vers la France. C'est la notion de laïcité. Aux États-Unis, les candidats ont presque, même si je sais pas jusqu'à quel point ils ont croyant dans leur vie privée, mais il faut se montrer en tout cas, et tout le monde va poser la question dans quelle église vous allez, et il faut être vu devant dans l'église où on va, etc. Donc ça m'étonne quand même après 25 ans dans ce pays, que un pays qui est si moderne dans plusieurs façons a quand même les racines religieuses si fortes.
Comment est-ce que vous observez, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'entendre, que dans la campagne électorale française, ce thème de la racine chrétienne, ce thème de l'identité religieuse, certes ne soit pas le cœur des questions des journalistes adressés aux candidats, mais soit parfois le cœur des discours prononcés par les candidats eux-mêmes?
Oui, j'imagine que j'étais dans un débat avec quelques écrivains le week-end dernier, et il y a l'idée que même les idées de pays français, les idées françaises, ce sont la liberté, l'égalité, la fraternité, ce sont les idées qui est vraiment enracinées dans la tradition judéo-chrétienne. Ça, c'est possible, mais après...
C'est discutable aussi.
Oui, voilà.
To the President of the United States. Ban everything.
Thank you, Gwen, and I thank the Commission also. I appreciate this privilege of being able to be here and speak with Americans.
Please, God, be kind.
You know, I think a good barometer here, when we're trying to figure out, has this been a good time or a bad time in America's economy is... Go to a kid's soccer game on Saturday and turn to any parent there on the sideline and ask them, how are you feeling about the economy? And I'll betcha you're going to hear some fear in that parent's voice. Fear regarding the few investments that some of us have in the stock.
We've got 88 more minutes.
Did we just take a major hit with those investments?
Et il ne faut pas accuser uniquement les activités humaines. Il faut tenir compte du cycle naturel, de l'évolution des températures sur la planète.
Sénateur, quelle est selon vous la nature de ce problème?
Je pense qu'il est essentiel de comprendre les causes. Sinon, il est impossible d'y apporter une solution.
Ce que les gens disent, c'est « trouve-moi du pétrole ». C'est ça que les gens nous demandent à travers tout le pays dans nos meetings, parce que tout le monde souhaite qu'on commence à exploiter nos propres sources d'énergie de façon indépendante.
Nos soldats ne doivent pas rester sur ce front. Mais John McCain n'a aucune intention d'arrêter cette guerre. Nous le ferons, je vous promets que nous le ferons.
Gouverneur, votre plan ressemble à une reddition sans condition en Irak.
Souhaitez-vous répondre aux commentaires du sénateur McCain sur le plan santé?
Plus vite! Plus vite!
Il y a d'abord un problème de salaire et de taxes, et...
Nous avons besoin d'allègements fiscaux pour accélérer la création d'emplois dans ce pays.
Barack Obama et le sénateur O'Biden ont dit non à toutes nos propositions.
Elle vient de dire O'Biden.
On est sûrement les seuls à avoir entendu.
Et c'est Ronald Reagan qui a dit que le monde libre est fragile, que l'humanité elle-même n'est pas à l'abri de l'extinction.
Mais la liberté ne se transmet pas de parent à enfant. Il faut qu'on se batte pour elle, qu'on la protège. Et qu'on la lègue à nos enfants pour qu'ensuite ils fassent de même.
Si vous voulez vous battre pour elle... Joignez-vous à cette campagne avec celui qui a consacré sa vie à se battre pour vous.
Et c'est le sénateur John McCain.
C'est le troisième choix de cette carte blanche cinéma autour des élections. Vous faites entendre l'extrait d'un film qui s'appelle Game Change, un film de Jay Roach qui est consacré à Sarah Palin. C'est un film qui était plutôt diffusé à la télévision, c'est ça ?
Oui.
Un téléfilm. Et ici, on entend une intervention télévisée justement de Sarah Palin et on entend le camp des communicants derrière la vitre de la régie qui applaudit ou s'inquiète des phrases prononcées par Palin, du rythme de la prise de parole de Palin. Qu'est-ce qui vous intéressait dans ce film-là ?
En fait, c'était toute la campagne électorale avec Palin, parce que c'était hallucinant quand on voyait. Elle disait les choses et Elle savait mais rien du tout sur la politique, la géographie, le monde. Et chaque fois, elle déclamait, elle allait très loin. Et comme spectateur, on pensait que c'est pas possible. Elle peut pas continuer et avoir et de comment on dit recover, de récupérer. De ça, et chaque fois elle le fait, souvent elle le fait, hein. Je sais pas comment, elle avait du charisme
et elle retombait sur ses pieds. On l'entend là, en fait elle reprend un discours, elle a quelques secondes d'hésitation et en fait elle se remet dans une machine comme ça discursive où elle repart, en fait.
Oui, et elle a fait ça tout le temps et on voyait, et mais c'était extraordinaire à voir. Et après aussi, elle faisait partie, évidemment, elle était la candidate de McCain parce qu'elle faisait partie de l'extrême droite, de Teabag, la communauté qui sont vraiment très, très extrêmes. Et là, maintenant, le candidat républicain a aussi choisi quelqu'un de l'extrême droite comme le candidat de vice-président. Ça veut dire, je pense, que dans la politique américaine ou le parti républicain ne sait pas comment il peut arriver sans avoir le soutien de cette partie extrême. Et moi, je pense, comme beaucoup de monde, que si la partie républicaine ne s'en vante pas encore dans une autre façon, elle ne peut pas continuer comme ça.
Tout à l'heure, vous disiez, en parlant de Donald Trump, que vous étiez absolument effaré de voir la manière dont il prenait la parole et les thèmes qu'il développait. Ça veut dire que, et vous tenez aussi ce propos-là sur Sarah Palin, ça veut dire que quoi, on passe encore un cran supplémentaire avec Donald Trump ou c'est juste différent?
Oui, je pense que c'est encore pire parce que lui, il a choisi quelqu'un comme Palin en Pence, mais après lui-même, c'est vraiment, c'est une autre ligue, quoi. Il a franchi tous les. C'est presque impossible de penser que quelqu'un comme lui peut se présenter comme président et dire les choses qu'il dit, qui n'ont. Parfois, on essaye de cerner de comprendre the meaning, qu'est-ce qu'il veut dire quand il dit ça. Par exemple, il a dit « je peux flinguer quelqu'un en 5e avenue, personne me mettre en prison », mais ça veut dire quoi? Mais il a vraiment, elle restait quand même...
Sarah Palin.
Oui, Sarah Palin, elle était le gouverneur d'Alaska, même si elle savait pas beaucoup de choses, elle connaissait un minimum, elle connaissait la politique régionale quand même, mais lui, il sort, il est d'une autre planète.
Et vous dites, on ne comprend pas comment c'est possible qu'il puisse, cette personne-là, se présenter à ces élections. Mais en même temps, il a des soutiens.
Oui,
il y a une partie de la population qui est prête à soutenir Donald Trump. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il y a une partie de ce pays que vous n'arrivez pas à envisager, que vous n'arrivez pas à regarder, que vous ne comprenez pas?
Je ne comprends pas, ça c'est sûr. Mais après, je pense qu'il y a aussi une partie de ce pays qui avait soutenu Sarah Palin ou qui représente les gens d'extrême droite qui ont gagné en ampleur, en fait, après que Barack Obama ait élu. Peut-être encore
plus. Du point de vue des idées.
Oui, au point de vue des idées, ils ont... c'est une partie qui voit vraiment... qui se voit soi-même... comme une sorte d'ennemi des autres, de la multiculturalité, et qui se sent peur de ce qui devient les États-Unis, qui est juste une question de démographie aussi. Donc voilà.
Governor. Governor Stanton, this is Henry Burton.
Governor.
I met your grandfather once when I was a boy. I hitchhiked to Washington to hear him speak. He was a great man.
Thank you, sir.
How are you? Good to see you.
He's really glad you're coming on board, I can tell.
No, I didn't say I was coming on board. I said I'd meet with him. Did you tell him I was coming on board?
No. Take it easy.
What the hell is he doing up here anyway? He's a southern governor nobody's heard of.
See, already you're sounding like a campaign manager.
Howard, I said...
I'm kidding. I'm kidding.
Suppose if I told you that Jack stands up here because he's really interested in adult literacy, you'd tell me I was full of shit.
Yes.
Howard Ferguson. Henry Burton.
How do you
this
do?
Is Marianne Walsh, a very special librarian who's running these classes.
Oh, thank you, Governor Walsh. Mm-hmm. Oh, Governor Stanton. I'm sorry.
C'est donc une scène de foule dans un film qui s'appelle Primary Colors de Mike Nichols, sorti en 1998. C'est le quatrième extrait que vous choisissez. À Badawessar, on entend Jack Stanton, joué par John Travolta, donc se déplacer dans une foule et serrer des mains, comme le veulent les campagnes électorales. De quoi s'agit-il et pourquoi vous avez choisi ce film-là? C'est un film qui est un tout petit peu plus vieux que les autres.
Oui, je pense qu'au niveau... Par exemple, de la communication, Jack, il a des choses en commun avec Bill Clinton. Voilà. Et sa femme, qui est jouée par Emma Thompson, elle le soutient sur beaucoup de choses. Et là, je pense que par rapport à la candidature de Hillary Clinton, on écoute beaucoup, on entend beaucoup de la part de la presse, mais aussi le public, que... elle n'arrive pas à communiquer avec les gens dans la même façon que...
Son mari.
Que son mari, voilà. Ou dans une façon assez chaleureuse pour sa campagne. Et moi, j'ai trouvé, en fait, il y a des autres extraits aussi dans le film, quand on le regarde, il serre les mains, il a tout de suite un certain rapport avec les gens autour de lui, mais tout de suite, et c'est évidemment, il y a beaucoup de charisme dans le personnage, mais aussi à manière d'être vraiment présent avec les gens autour de lui, mais tout le temps. Il vit des moments comme ça, mais... Il est là, quoi. Et les gens le sont. Et ça parle beaucoup aux gens. Il était quand même un... Clinton, qui a quand même les similarités avec Jack Stanton, était quand même un des présidents le plus aimé aux États-Unis.
Justement, grâce à cette proximité physique,
oui, je crois,
à ce rapport chaleureux.
Oui, je pense que ça joue beaucoup dans les élections aussi.
Y compris dans un pays aussi grand que les États-Unis, avec la diversité des États que vous décriviez tout à l'heure, il reste que le rapport d'une personne à une autre personne, le fait de pouvoir toucher une épaule, un avant-bras, un poignet, de pouvoir claquer une bise, c'est toujours important.
Je pense que oui, c'est toujours important. Ils font, par exemple, vous voyez les tours dans les bus, mais partout aux États-Unis, ils s'arrêtent dans les très petites villes, tout petites villes qui sont importantes. Ils mangent la nourriture locaux, les sandwichs après sandwichs avec du viande, dans tous les stops. Ils arrivent à avoir un certain rapport avec leur public. Voilà.
D'ailleurs,
c'est important.
On se demande comment est-ce qu'ils tiennent encore debout Donald Trump et Hillary Clinton après tout ce temps-là. Je ne sais pas, il n'y a pas des émissions. Alors, je sais qu'il y a des grandes rumeurs et des grandes remarques sur la santé de Hillary Clinton, dès qu'elle tousse un peu de travers. Il y a 40 articles qui paraissent à la seconde. Mais ils sont aussi regardés comme des athlètes faisant campagne depuis je ne sais pas combien de temps.
Oui, je pense que ça prend en fait énormément d'énergie parce qu'il faut se donner tout le temps d'un public et de aussi faire les choses bien, quoi, de sourire, d'être là, de regarder, de manger. Et c'est extraordinaire. Et je pense qu'ils ont, mais je pense aussi d'ailleurs que le pouvoir ou la promesse de pouvoir donne beaucoup de force aux gens.
And I will faithfully execute the office of President of the United States.
That I will faithfully execute the office of President.
Power is a lot like real estate. It's all about location, location, location. The closer you are to the source, the higher your property value. Centuries from now, when people watch this footage, who will they see smiling just at the edge of the frame?
So help me God.
Congratulations.
This is going to be a big year for us.
This is the memo I've drafted on our Middle East policy we've been developing. I'd like to coin the phrase trickle-down diplomacy.
Frank,
that way,
we are not nominating you for Secretary of State. I know he made you a promise, but circumstances have changed.
The nature of promises, Linda, is that they remain immune to changing circumstances.
I knew you shouldn't trust that woman.
I didn't. I don't. I don't trust anyone.
Then how could you not see this coming?
Walker just nominated Carr.
It's a long road to confirmation.
I protect your identity. I print whatever you tell me, and I'll never ask any questions.
So we're talking about trust.
On est en train de parler de confiance. C'est la fin de la bande-annonce, quasiment la fin de la bande-annonce de la première série première saison, pardon, de la série House of Cards, je fais peut-être partie des seuls êtres humains sur le monde ou dans le monde qui n'ont jamais vu une seconde d'un épisode de cette série. Donc, pour ceux qui sont comme moi, de quoi s'agit-il ?
Alors, il s'agit de Kevin Spacey, dans le rôle de Frank Underwood, qui a envie de devenir le président, qu'il devient aussi finalement, et tous les enjeux politiques autour, un cercle presque vicieux entre la presse, les autres sénateurs, et lui, et sa femme aussi, elle a beaucoup d'ambition. Il est corrompu, et sans aucun, il n'a pas de limite, quoi. Et après, en fait, tous les gens qui travaillent pour lui aussi sont obligés de faire des choses. Il est méchant, il est malin, il est tout ce qu'on veut, il n'a pas de morale. Et on le voit, c'est incroyable tout ce qui se passe à l'antenne, mais après, il y a des choses qu'on voit qui ne sont pas peut-être assez loin de la réalité. Il y a des moments quand on dit, bon, ça, ce parti-là, c'est presque la réalité. Et surtout, on entend Frank Underwood qui nous parle, nous, donc les pensées qui lui il a dans la tête aussi, où il est un peu plus franc qu'on est avec les autres, qui donne aussi un goût de la pouvoir de la le pouvoir corrompu complètement, et on voit ça.
Et vous suivez la série House of Cards depuis le début, depuis la première saison ?
Oui, oui. Et il y a eu beaucoup de... C'est une série télé, donc il y a des allées et des retours, et un complot très très compliqué. Mais après... par rapport pour voir tout ce qui se passe à Washington, c'est très intéressant, et surtout il y a aussi un côté avec les rapports externes, c'est-à-dire les relations avec les autres pays et aussi les rapports avec tous les sénateurs, et jusqu'à quel point il y a une certaine sorte de horse trading, c'est-à-dire je te donne ça, tu me donneras ça. C'est vraiment un échange très mercenaire, la politique, à la fin.
On sait que Barack Obama est aussi un grand fan de cette série-là. Il s'en est ouvert officiellement. Vous diriez que c'est une série qui a des vertus pédagogiques sur la manière dont elle montre la vie politique, les coulisses politique de ce grand pays?
Oui, un peu quand même.
C'est-à-dire, ouais. Sans House of Cards, les citoyens américains ou les spectateurs américains en sauraient-ils autant sur la manière dont ça se trame en coulisses?
On voit au tout près tout ce qui ne va pas, et avec un niveau de détail que normalement on n'a pas habitué sur l'écran, la politique.
Thank you.
Avada Wessar, c'est vous qui nous avez suggéré de prendre n'importe quelle chanson de cet artiste. On a choisi Hayat de Kiran Alouwaya. Peut-être vous pouvez nous la présenter rapidement.
Oui, elle est, je pense qu'elle est indo-américaine. En tout cas, elle a des racines indiennes. Je l'ai écoutée plusieurs fois live. Et en fait, la dernière fois, c'était dans Madison Square Park, l'endroit qui est aussi le titre de mon roman. Et c'est un petit parc dans mon quartier où il y a en été plusieurs performances par les artistes divers. Il y a aussi les installations, la sculpture. Et je trouvais très sympa que elle était là, elle était venue et elle était choisie parce que je l'ai entendue avant ailleurs, je sais pas où, mais elle était là à New York, à Madison Square Park, et elle jouait là. Elle avait fait les chansons comme celui-là qui sont assez traditionnelles, mais aussi après les choses avec les instruments plutôt occidentaux et qui étaient très sympas.
Vous écoutez France Culture, les nouvelles vagues par Marie Richeux.
Et il est 14h49 sur France Culture. À cette heure-ci, c'est la rubrique 5 fois. Elle s'appelle comme ça car nous entendons chaque semaine 5 fois la voix d'un invité fil rouge. Il s'empare comme il le souhaite de notre thématique pour 5 récits subjectifs. Cette semaine, Romain de Bec-de-Lièvre rencontre le réalisateur Yves Geland et l'évoque aujourd'hui le documentaire qu'il tourne en 1999 sur la campagne des municipales à Paris, Un panier de crabes.
Cette passion pour les élections qui m'anime depuis que je suis enfant, forcément, assez vite, je me suis tourné vers une élection pour un de mes tout premiers documentaires. J'ai dû commencer à réaliser des films, reportages ou documentaires à partir de 97-98. Et en 99, j'ai choisi, avec une journaliste politique, Pascale Sauvage, qui travaillait à l'époque au journal Le Monde, de suivre la ville dans laquelle j'avais déménagé quelques années auparavant, Paris, parce que j'avais lu dans le journal Le Monde un putsch organisé par Jacques Toubon. C'était en 98. Et je me disais, dis donc, si 3 ans avant le scrutin, on en est déjà à se tirer dans les pattes de cette façon, ça avait l'air assez violent, mais il n'y avait aucune image. Je me dis, ça, c'est prometteur. Et donc, j'ai eu envie d'écrire ce film. J'étais tout jeune réalisateur. Je suis allé voir un producteur, Jean Labib, et un diffuseur qui nous a suivis très vite. C'était donc Canal Plus et Alain de Greff. Et donc, je me suis lancé dans cette histoire et on a été servi au-delà de ce qu'on pouvait imaginer. Et la première chose, c'est qu'il y avait beaucoup de candidats à la candidature. Je préfère d'ailleurs, dans les élections, cette période de maintenant on appelle ça des primaires, c'est très à la mode, mais c'est les combats internes qui sont beaucoup plus violents. Je pense au combat à gauche entre Bertrand Delanoë et Jack Lang, et à droite entre Françoise de Panafieux, Jean Tiberi, Philippe Séguin, Édouard Balladur. Mais rien qu'en recitant ces noms, je me dis, mais vraiment, j'étais verni, quoi. Quelle magnifique distribution. Je pense à d'autres personnes qui étaient des seconds rôles, parfois même des premiers rôles. Je pense d'ailleurs plus à Xavier Tiberi qu'à Jean Tiberi. Je pense à Jacques Dominati, à Bernard Bled. Philippe Séguin est un personnage incroyable. Et quand je les cite, on a tendance souvent à dire, et moi, je m'inscris en faux, tous les mêmes. Derrière tous les mêmes, il y a souvent tous pourris. Moi, je le pense pas du tout. Même si on peut me reprocher parfois que mes films ne donnent pas une image très reluisante du personnel politique. J'ai plutôt de l'estime pour ces hommes et ces femmes que je filme, et ces acteurs, ces actrices, ces interprètes, acteurs et actrices. J'utilise à dessein le vocabulaire de la fiction, mais parce que je pense que dans la dramaturgie, dans la construction du montage, même si on filme le réel, parfois il y a des choses qui répondent à l'imaginaire de la fiction, en tout cas. Et donc voilà, je pense pas qu'il y a une grande diversité. Et ça a été 2 ans de tournage, ça a été pour moi un formidable plaisir de les filmer, parce que petit à petit, c'est sur ce film-là que j'ai commencé à tourner moi-même, et je tournais avec une petite caméra. Ça a été pour moi une aventure, Paris à tout prix, qui m'a marqué, et je me suis rendu compte à ce moment-là combien l'image était importante et que finalement je m'intéressais plus au langage du corps qu'aux petites phrases, et ça m'est resté.
Bienvenue, mon bal. Bienvenue Moubaladur.
Keshirak Bouliomanja.
Keshirak Bouliomanja.
Qui aura l'autre à l'usure? Je me perds en conjecture. Ce sont tous les deux des durs. Chirac est au pied du mur, mais Baladur semble très sûr.
Quel sera notre futur?
Quel sera notre futur?
De l'Orben des Pédaki.
De l'Orben des Pédaki.
Que Bouliomanja Chirac.
Que Bouliomanja Chirac.
De l'or Chirac, Chirac est mûr, mais Baladur semble très sûr.
Quel sera notre futur?
Quel sera notre futur?
Giscard d'Orben des Pédaki.
Giscard d'Orben des Pédaki.
Que Bouliomanja de l'or.
Que Bouliomanja de l'or.
Giscard d'Or, de l'or Chirac, de l'or Chirac, Chirac est mûr, mais Baladur semble très sûr.
Quel sera notre futur?
Quel sera notre futur?
Pasqua ben des Pédaki.
Pasqua ben des Pédaki.
Que Bouliomanja Giscard.
Que Bouliomanja Giscard.
Pasqua Giscard, Giscard de l'or Chirac, Chirac est mûr, mais Baladur semble très sûr.
Quel sera notre futur?
Quel sera notre futur?
C'est qu'un ben des Pédaki.
C'est qu'un ben des Pédaki.
Que Bouliomanja Pasqua.
Que Bouliomanja Pasqua.
C'est qu'un Pasqua, Pasqua Giscard, Giscard de l'or Chirac, de l'or Chirac, Chirac est mûr, mais Baladur semble très sûr.
Quel sera notre futur?
Quel sera notre futur? Ça faisait très plaisir à Véronique Villa d'entendre de Fabulous Troubadours pour terminer cette série d'émissions sur les élections. On a donc fait, grâce ou à cause d'Yves Gelon, un petit détour par la France et les élections municipales à Paris. On retourne du côté de l'Amérique et des États-Unis puisque l'Amérique aujourd'hui, c'est le thème de toute cette journée sur France Culture et c'est la romancière Catherine Cusset qui accompagne toute cette journée avec ses chroniques américaines. Après vent, on va dans Central Park.
Quand New York se couvre d'un blanc manteau, la neige piétinée forme des piscines boueuses au passage piéton. On patauge dans la gadoue. Il faut aller à Central Park. La neige y reste, compacte et étincelante, sous le ciel bleu des lendemains de tempête. La colline au niveau de la 75e rue offre une grande piste de luge où les gardiens du parc ont installé des bottes de foin au pied des arbres. Des grappes d'enfants et d'adultes avec des luges multicolores recouvrent la colline blanche. Ceux qui viennent des beaux quartiers portent des après-ski, des moufles et des pantalons de ski. Les autres, aux vêtements peu adaptés, auront les fesses et les pieds mouillés tout à l'heure, mais tant pis, ils se seront bien amusés. Une rondelle de plastique brisée est récupérée par des touristes sud-américains qui s'essaient à la glissade avec des rires sonores. Central Park sous la neige ressemble à un tableau de Bruegel. Aux endroits de passage les plus usités, la blancheur s'est teintée de terre. Les gamins descendent à toute allure la piste bosselée. Parfois, une mère ou un père file avec eux, telle cette femme à grosses lunettes qui hurle d'excitation. Du haut de la colline, là où les gens font la queue pour la grande descente, des cris impatients fusent. « Get out of the way !» Un gamin noir cherche à récupérer le gant qu'il a perdu au milieu de la pente et dérape sur ses tennis. Un papa à kippa lui tend la main pour le hisser sur quelques mètres. En dehors de ce geste, on voit peu d'échanges, peu de complicité. Même sur les pistes de luge, New York, c'est chacun pour soi.
Central Park sous la neige, c'était l'une des chroniques américaines de la romancière Catherine Cusset qui sert de fil rouge à cette journée spéciale L'Amérique aujourd'hui. Elle fait paraître en cette rentrée L'autre qu'on adorait aux éditions Gallimard et vous pouvez la retrouver sur franceculture.fr. Même sous la neige, New York, c'est chacun pour soi, disait Catherine Cusset. Vous êtes d'accord avec elle, Abada Wessar?
Pas tout à fait. Je pense que c'est une ville qui a une mauvaise réputation parfois pour être un peu impolie, très individuelle, qui n'est pas toujours le cas.
Vous y trouvez plus de solidarité, de dialogue et de fraternité qu'on ne l'entendait là dans la voix de Catherine Cusset?
Oui, quand même. La plupart des parts. Hein. Après, il y a toujours des moments que ce n'est pas le cas, mais oui, je pense qu'il y a quand même une certaine solidarité, oui.
Ce qui nous vaut votre présence ici à cette table et à Paris, c'est le Festival America qui a lieu à Vincennes sur ce week-end et qui invite des écrivains américains. Vous allez tout de suite, après cette émission, courir jusqu'à Vincennes pour assister à une table ronde, une discussion autour de l'écriture entre deux cultures. C'est à la fois votre cas en tant que personne, en tant que femme, mais aussi c'est le cas du couple que vous décrivez dans Madison Square Park. Ça veut dire quoi pour vous, écrire entre deux cultures, pour donner un avant-goût de cette discussion qui aura lieu à 17h à Vincennes?
Ça peut dire plusieurs choses, mais dans ce roman-là, qui est le dernier, on voit un personnage humain qui est le personnage principal du roman, qui vit, qui est une femme d'origine indienne, assez moderne, qui vit avec un Américain et ses parents qui sont à côté, qui vit à New Jersey. Ils ne savent pas qu'elle est avec un Américain parce qu'elle prend vers elle-même le jugement de ses parents. Elle a internalisé et elle n'arrive pas à leur dire et d'être vraiment et de se libérer de ses racines. Il y a beaucoup de flashbacks. C'est aussi un travail sur la mémoire et le poids du temps.
Et de l'enfance.
Et de l'enfance, qui est par hasard une enfance qui s'est passée dans un autre pays. Donc on a ça. Voilà. Et on retrouve Uma dès qu'elle sait qu'elle est enceinte. Donc cette hypocrisie ou cette double vie ne peut plus continuer. Et elle est en pleine crise. Voilà.
Merci beaucoup, Abba Dawessar, d'avoir été avec nous. Madison Square Park s'est publié aux éditions Héloïse d'Ormesson et on mettra vos différents rendez-vous sur la page des Nouvelles Vagues au Festival América. Les Nouvelles Vagues, c'est terminé pour cette semaine. On peut continuer d'échanger sur Twitter, Facebook, mais aussi franceculture.fr où vous pouvez retrouver le podcast et le faire circuler tout autour de vous. Un grand merci à Romain Debecq de Lièvre, Inès Duperron et Alice Ramon qui pensent et préparent cette émission avec moi et à Véronique Villa qui la réalise. Michael Simon est à la suggestion musicale et aux manettes aujourd'hui, c'était David Federman. Dans un instant, poésie, etc. avec Manou Farine. Moi, je vous retrouve lundi, même heure. Très bonne fin de semaine à tous.